Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Eh bien oui, la tomate et la banane. Bien le bonjour les amis et bon été à la table des bons vivants. Produits locaux, recettes de saison, sujets d'actualité bien relevés, sans oublier la crème de nos invités. On vous a préparé un chassé-croisé spécial cuisine d'été. Elle utilise une spatule comme éventail, elle fait bronzer ses viandes à la plancha. Rien ne l'arrête, c'est Anne-Laure Femme. Bonjour Anne-Laure.
Et rien ne vous arrête Laurent, ravi d'être avec vous. Bonjour à tous.
Pour s'hydrater et faire de belles découvertes, on peut toujours compter sur lui. C'est l'ami des boissons, il est généreux, c'est Olivier Pouls.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Ce samedi, le poivron nous en fera voir de toutes les couleurs. Une fois récolté dans le Var, nous allons l'apprivoiser en cuisine. Dépliez la nappe les amis hein, et sortez le panier. Ce samedi, on prend l'air avec le meilleur de notre dossier spécial pique-nique. Ah. Et on a plein d'idées de recettes pour vous. Hein. Roselyne Bachelot et Pierre Arditi se sont distingués cette année à cette table avec leur bon coup de fourchette. Nous les retrouverons. Et deux autres représentants de la Corporation des bons vivants seront là. Jean-Pierre Foucault et Jean Tellet. Sans oublier une belle opération salade de pâtes avec le chef lyonnais Mathieu Vianney. Il va nous donner des astuces pour bien la réussir. Voilà, vous savez tout. Installez-vous, c'est parti. Ah, notre rituel, hein, en saison comme pendant l'été, on n'y échappe pas et on adore ça. Les papilles, voilà. Faites fonctionner votre mémoire à papilles. Quelle est papilles de ZLES, hein, pas les mamies non plus. C'est l'été, on a le droit.
On est fatigué.
Alors, le goût, votre goût de la semaine, Anne-Laure Femme.
Eh bien, moi, je vais dans une green kitchen pour les kids, donc une cuisine verte pour les enfants. Plus de 70 recettes végétariennes réunies dans un bouquin que je trouve superbe. C'est fait par un couple de blogueurs qui sont végétariens, David Frankel et Louise Vindal. Vous avez notamment une salade de pastèque à l'aloumi que je trouve géniale et ludique, toute simple.
Redites-nous ce qu'est l'aloumi parce que tout le monde ne connaît pas.
L'aloumi, c'est un fromage de lait de brebis qui est plutôt salé. Rien à voir avec la feta, qui est plutôt plus moelleux avec de la mâche. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident à trouver, donc on peut remplacer par la feta. Mais en tout cas, pour initier les enfants à la cuisine végétarienne de manière ludique et qui donne envie, c'est parfait. Green Kitchen pour les kids, c'est aux éditions alternatives.
Merci Anne-Laure. Olivier Pouls, votre goût de la semaine.
On a parlé rosé plusieurs fois à ce micro et autour de cette table durant l'année. Je déplore souvent que le rosé devient de plus en plus industriel, n'a pas de caractère, pas de goût, pas de saveur.
Et puis
pas
il
terrible.
Laisse parfois des mauvais souvenirs crâniens. Hein.
Je crois que vous en avez vécu l'expérience.
On n'est pas tous égaux hein, devant le vin. Et moi, c'est vrai que le rosé, j'ai vraiment du mal.
Voilà, mais fort heureusement, il existe quand même des producteurs consciencieux qui travaillent bien, qui mettent en avant leur terroir. Et moi, j'ai adopté comme rosé de l'été officiel 2019 le rosé du domaine Patrice Collin. C'est un coteau du Vendômois. Oui, on est dans la Loire, figurez-vous. Donc, on est loin de la Provence et de ces rosés un peu, voilà, comme je disais, standardisés. On est sur quelque chose très original parce que c'est fait à base d'un cépage qu'on appelle le gamay de Bouze. Et c'est un cépage qu'on ne trouve plus dans beaucoup
de
régions.
C'est bizarre comme on dit comme ça.
Hein. Oui, le gamay de Bouze.
Non, mais peut-être qu'il poussait sur justement un compost naturel.
Rien à voir. C'est plutôt régional. Dans la Loire. Et la caractéristique des vins de ce cépage, c'est que les vins sont très poivrés. On a vraiment l'impression qu'on a mis un tour de moulin de poivre dans le verre, ce qui n'est évidemment pas le cas du tout. Et on retrouve ces notes poivrées dans ce rosé. Ça lui donne une dynamique, je trouve, et un intérêt gustatif vraiment très très intéressant, et notamment sur de la viande ça marche très bien.
Le rosé du Vendômois,
hein. Voilà.
Merci Olivier. Mon goût de la semaine, moi c'est la salicorne, c'est vraiment une plante maritime de saison. Je suis allé la récolter il y a quelques semaines avec Renette Michon qui est cueilleuse à pied dans la baie de Somme et qui va cueillir comme ça les plantes maritimes. J'adore ça, la salicorne, on l'appelle le cornichon marin, c'est frais, c'est croquant, c'est iodé, c'est salé. On peut l'utiliser pour relever une belle côte de bœuf par exemple.
Oui, ou dans des salades.
Et je l'ai dégusté chez Marc Favier du restaurant Marcor à Paris, dans le 2e arrondissement, qui est une belle table parisienne où il utilise pour relever une bonite fumée comme ça avec un petit bouillon. Et c'est délicieux. Voilà.
Et on a un peu tendance à la confondre avec une algue parce que visuellement, ça a une allure, et on l'appelle haricot de mer.
Oui. C'est pas du tout une algue, c'est bien une plante maritime. C'est l'heure d'aller au marché, les amis. C'est l'été, la saison des barbecues est arrivée. Et quand on vous tend le micro aux quatre coins de la France, vous ne manquez pas d'idées côté barbecue.
la classique côte à l'os. On la sort un peu quelques heures avant de la cuire, en fait.
Chipot, bon, ma merguez, c'est trop courant. Donc, nous, on fait beaucoup côte de porc sardine. Elle est rougée, pour légumes, champignons. J'ai mon petit garçon, il adore les champignons en barbecue.
Allez, voilà, madame, on écrit de la voilà.
Je prends des blancs de poulet que je coupe en petits morceaux. Je marine ça dans du citron, de la coriandre. J'embroche tout ça. Oui, c'est pas mauvais. On met un petit peu de miel aussi.
Jamais de barbecue, parce que j'aime pas. Ça m'intéresse pas du tout, monsieur.
Ah non, une plancha, c'est mieux. Les côtelettes d'agneau du pays. Des bons petits agneaux qui viennent de Cisteron, là.
Des brochettes avec du blanc de poulet, avec de l'ananas, et mettre des épices comme du curcuma, du curry, du cumin. Les voisins sont embaumés.
Bah oui, ça parfume. Et on invite les voisins, comme ça, c'est une manière de faire connaissance, bien sûr.
Et la France, mon cher Laurent, se divise quand même en deux catégories. Et le barbecue et la plancha. Pratiquement irréconciliable.
Il faut faire des compètes. Plancha contre barbecue, absolument. C'est vrai qu'on ne le dira jamais assez, mais le barbecue, lui, apporte ce petit côté grillé et fumé que la plancha n'apporte pas.
Mais il est un petit peu moins bon pour notre santé.
Exactement. Il ne faut pas abuser du brûlé, en tout cas. Hein, surtout pas. Épigramme. Pensez-y, l'épigramme d'agneau, la hampe, la cigaline, qu'on appelle également l'araignée de cochon. C'est des morceaux bon marché.
Le travers.
Goûteux et peu coûteux, comme je le dis souvent. Et le travers, bien entendu. Et puis les poivrons vont au barbecue, bien entendu.
Tous les légumes d'été, en fait, presque.
Ça tombe bien. Vert, jaune et rouge, le poivron ne passe pas inaperçu sur les étals, vous avez pu remarquer. Alors de la fourche à la fourchette, on lui règle son compte dans un instant à la table des bons vivants. A tout de suite. Bon été, bonnes vacances.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
11h30, Laurent Mariotte sur Europe 1.
Ah, la nature est bien faite, hein. C'est vrai que l'été regorge de produits parfumés, riches en fibres, en eau. Et depuis le début des vacances, nous avons parlé de la tomate, du melon, de l'abricot. Eh bien, c'est au tour du poivron, un des légumes officiels de la ratatouille. Et il est à l'aise aussi dans la tchatchouka, hein. Moi, j'adore ce plat.
Un plat du Maghreb.
Ah oui, un plat du Maghreb avec des tomates. Et d'ailleurs, la tomate et le poivron seraient cousins, alors ?
Eh oui, parce que le poivron fait partie d'une famille botanique qu'on appelle les solanacées. Et c'est le cousin, non seulement de la tomate, mais aussi de l'aubergine.
Ratatouille.
Et un cousin inattendu, le tabac.
Ah
et
bon
puis, sachez qu'en France, ben, on ne fait pas comme tout le monde. On est les seuls à distinguer, à faire la différence entre le poivron et le piment, alors que c'est vraiment
c'est
la
piment.
Même chose.
Oui, c'est la
c'est
même
un
famille.
Piment. En fait, pour tout vous expliquer, le poivron ne contient pas de capsaïcine, c'est la molécule qui fait le piquant
pique.
En
eh
fait,
oui, qui chauffe.
Du piment. Et le poivron, ça ne pique pas, c'est même évalué à zéro sur l'échelle de la force des piments officielle de Scoville.
Ah oui, c'est vrai, c'est bien de nous reparler de ça.
L'échelle de Scoville, du monde, oui. de gens qui mangent des piments oui. les plus pimentés, les plus puissants, justement. Et c'est assez impressionnant
ah oui,
à regarder.
Faut
j'ai assisté à ça,
un bon
c'est chaud.
Et
c'est
un
chaud.
Bon intestin, oui, ça doit être très très chaud. Alors, une grande question qu'on se pose à la table des bons vivants à propos du poivron, c'est sa couleur. Est-ce que la couleur a un lien avec la maturité du poivron ? Eh bien, Marion Sauveur a enquêté sur le sujet. Rendez-vous avec Agnès Villon, qui est maraîchère à Ollioules dans le Var. C'est la fille de Daniel Villon, le fondateur de la première AMAP de France. Donc, on peut lui faire confiance. Elle connaît bien le sujet.
Il fait très chaud. On est en plein milieu d'un champ de poivrons. Ce sont des plants qui ne sont pas très, très hauts, qui sont beaucoup affaiblis par leurs fruits. Puisque le poivron est un fruit. Et au départ, le poivron est vert quand il n'est pas encore mûr. Et si on le laisse sur la plante, il devient jaune, orange ou rouge.
Ça, c'est en fonction de la variété.
Voilà, absolument.
Sous nos yeux, on a pas mal de poivrons verts, donc qui ne sont pas encore mûrs, mais qui sont mangeables.
Qui sont mangeables, certains sont en train de tourner. Le poivron vert est un petit peu plus fort que le poivron mûr, donc il va être beaucoup plus sucré. Il va avoir une légère acidité en bouche et bien croquant. Alors un poivron, classiquement, il a 4 lobes, mais il peut n'en avoir que 3. Sa peau doit être assez lisse pour être sûr qu'il est bien mûr et bien charnu. Et ensuite, normalement, le poivron est quand même assez gros. Si c'est un petit poivron, sa chair sera moins charnue, donc il sera peut-être plus difficile à travailler, notamment en poivron grillé. On enlève les petites graines à l'intérieur et des fois en tirant même le pécoui c'est la queue du poivron, en tirant la queue, souvent il y a beaucoup de graines qui viennent et ça débarrasse déjà le fruit de pas mal de ces petites graines.
Et ben voilà. Tout est dit, c'est officiel, le pécou. Bah oui, on rigolait sur le pécou, mais c'est magnifique.
J'adore ce pécou.
Mais voilà, c'est un joli nom. Alors on récapitule. Le poivron, à la base, elle vient de le dire, Agnès, il est vert.
Il est toujours vert.
Et en fonction de la variété, il va être ou jaune ensuite, ou rouge ensuite, ou orange. Et il y a même d'autres couleurs, Olivier Pouls.
On en trouve même des noirs ou des violets à l'heure actuelle, mais ça a un intérêt si vous les mangez crus, parce que la couleur disparaît à la cuisson.
Alors, on n'est pas tous égaux devant le poivron, parce que c'est vrai que faites l'enquête autour de vous, là, en vacances ou chez vous à la maison. Tout le monde ne digère pas le poivron de la même façon. Cru ?
Cru, j'ai du mal à le digérer, surtout s'il y a la peau.
Oui, c'est ça, il faut éplucher la peau. Il y a même des économes spéciaux pour la peau des poivrons. Mais il y a un petit truc pour retirer la peau quand on veut le cuire, Anne-Laure Femme.
C'est de le griller au four, tout à fait. Vous mettez 20 minutes à environ 210-240 degrés. Et ensuite, vous le laissez reposer et refroidir. Ou alors, pour accélérer encore plus le process, vous utilisez un sac plastique, vous le mettez encore chaud dedans, vous laissez refroidir, vous fermez hermétiquement. Et quand vous rouvrez, vous verrez, la peau sera hyper facile à décoller.
Oui, c'est tout flétri, c'est tout boursouflé, c'est
voilà,
ramolli.
Tout humide. Ouais.
Et c'est très bon, les poivrons confits un petit peu grillés, ça, comme les piquillos.
Avec un peu de paprika, au piment
d'Espelette,
pour les notes fumées.
Et faites une tchatchouka, on parlait de la tchatchouka, c'est quoi la tchatchouka? On le redit, c'est du poivron, de la tomate que vous allez laisser confire, et vous pouvez la customiser avec un œuf au plat à l'intérieur, par exemple. C'est un plat complet méditerranéen, très agréable. Qu'est-ce qu'on boit avec le poivron, Olivier Pouls? C'est compliqué, non, comme accord, ça?
Oui, parce que vous savez que l'un des défauts des vins, notamment de Cabernet Sauvignon, lorsqu'ils ne sont pas assez mûrs, c'est qu'ils développent des arômes de poivron. Et donc, le poivron est considéré dans un vin comme un défaut gustatif. Donc, certainement pas de vin rouge, parce que vous allez donner ce mauvais goût à votre vin. Donc, on va plutôt se retourner là vers des vins blancs ou des vins rosés, des vins un peu neutres, parce que le poivron, là, pour le coup, ça bouscule vraiment votre vin.
Oui, il est costaud, il passe pas inaperçu. Voilà. Donc, vous savez tout sur le poivron maintenant. Le vert, le jaune, le rouge et même l'orange. Allez, on vous emmène en pique-nique. Quels sont les produits et les recettes indispensables? Y a-t-il un art du pique-nique? Ne bougez pas, on revient juste après ça. Bon samedi matin sur Europe 1.
Laurent Mariotte sur Europe 1. 11h30, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants sur Europe 1.
Une nappe au bord d'un ruisseau, à l'ombre d'un arbre, face à la mer, un panier bien garni, une belle compagnie. Ben voilà quelques ingrédients d'un pique-nique réussi. C'est vrai que moi, j'adore l'été et les pique-niques. Ça va vraiment ensemble. Une belle randonnée aussi pour pique-niquer. C'est quoi pour vous, Anne-Laure Femme, le critère d'un pique-nique bien réussi?
Moi, je vais penser à mon petit confort parce que j'ai eu le séant douloureux après maint pique-nique. Je dirais que le plaid bien moelleux, c'est très utile. Et c'est léger en plus et vous enveloppez tous vos produits dedans. Oui. Non, c'est une astuce que je vous donne.
Mais vous avez raison, on ne pense pas assez au séant pendant le pique-nique et il faut y penser.
J'ai marché comme un cow-boy après, c'est un peu...
Votre critère pour un pique-nique réussi, Olivier Pouls?
Moi, il faut un point d'eau et de préférence une petite rivière de manière à fraîchir la bouteille de vin blanc.
Ben, je vous reconnais bien.
Voilà. Et alors ça, c'est si vous êtes en montagne, par exemple, un petit torrent de montagne, vous mettez votre bouteille dedans et vous attendez le temps de tout déballer, elle est à parfaite température, et puis le bruit de l'eau ensuite, pendant qu'on est en train de déguster tranquillement,
j'adore
ça.
Vous pouvez creuser le sable aussi au bord de la plage, moi c'est ce que je fais, je creuse dans
le
sable.
Oui, mais le problème c'est qu'en ce moment, sur nos littoraux, l'eau est relativement chaude, on a de l'eau à plus de 25 degrés, c'est pas idéal pour rafraîchir le vin.
Non, moi je suis en Bretagne, ça va. Ouais.
Alors au printemps, pour fêter l'arrivée des beaux jours, nous avons fait une émission spéciale pique-nique sur la terrasse d'Europe 1, nous avons reçu Christophe Sainte-Anne, qui est le chef du restaurant Papillon dans le 17e à Paris, et puis son épouse Laura Portelli, qui tient le garde-manger, qui est juste à côté de son restaurant. C'est une belle adresse de plats du jour à emporter. Ouais, c'est une très belle adresse avec des plats du jour accessibles. Et à la rentrée, Laura et Christophe ouvrent Pique-Nique dans le centre de Paris. C'est un restaurant pour picorer de belles assiettes. Alors j'ai demandé justement à Christophe Sainte-Agne quels étaient selon lui les essentiels d'un pique-nique réussi.
Ben, je pense qu'il faut déjà un très bel endroit. Et puis après, en termes de nourriture, il faut quelque chose de simple que tout le monde va partager. Il faut emmener, à mon sens, aujourd'hui, beaucoup de végétal, en fait. Moi, j'ai envie, dans la nature, comme ça, de sentir une cuisine autour des herbes, autour des légumes, des très beaux pestos, voilà, des choses comme ça, très fraîches.
Absolument. Alors tiens, avant de goûter, justement, quelques recettes que vous avez apportées, Christophe Sainte-Agne et Laura Portelli, et puis vous, amis auditeurs, on va s'intéresser un petit peu à l'origine du mot pique-nique, Olivier Pouls. Parlons de l'origine de ce mot pique et nique, deux mots réunis en fait.
Alors c'est un mot effectivement très ancien, c'est le linguiste Claude Duneton qui en parle pour la première fois. On en parle dès 1932, on dit le pique-nique est composé de verbes
piquer au sens picoré à l'époque, et nique qui est une chose sans valeur, une moquerie. Donc c'est, on mange des choses simples, c'est ça l'idée du pique-nique. Et finalement, c'est ce qu'on a conservé.
C'est l'art de la simplicité, voilà, le pique-nique. Alors, ce n'est pas parce qu'il faut faire simple qu'il faut faire non plus pas attention à la vaisselle et prendre des instruments en plastique et des choses comme ça, quoi. Donc, on fait attention à ce qu'on utilise.
Ah ben moi, je déboule avec ma malle en osier,
bah oui. Et,
vous savez, avec le service complet à l'intérieur,
à l'ancienne.
Les verres à pied. Non, mais moi, je vous avoue, je déteste manger avec des couverts en plastique, des assiettes en
mais
carton,
bien sûr.
Et des verres et des gobelets en plastique. Je déteste ça.
Ça change le goût, je pense.
Ça change le goût et puis ça m'enlève le plaisir. Donc moi, je prends de la belle vaisselle, je prends des couverts,
pareil.
Je prends des verres et puis je fais honneur au pique-nique.
Après, en ce moment, on trouve beaucoup plus dans les supermarchés des couverts et des assiettes en bambou.
Exactement.
Qu'on peut tout à fait réutiliser.
Mais
nous,
j'aime
on les lave.
Pas ça.
Ben moi, j'ai ça.
Mais Olivier, on peut tout craper ensemble, c'est pas
si,
grave.
Si, c'est pratique parce que là, c'est un produit brut, authentique, naturel, c'est pas du plastique, donc
oui,
on n'a pas du tout le même rapport.
Mais moi, je veux mon bon vieux
Lagueule. Vous voulez votre porcelaine de Limoges.
Ah oui,
votre porcelaine de Limoges et votre verre en cristal.
Mais c'est quand même classe, vous avez votre verre en cristal et votre porcelaine.
Je suis d'accord.
Au bord du ruisseau, moi j'adore ça.
Il y a aussi quelque chose à prévoir, c'est tous les récipients Tupperware pour garder les restes, parce que c'est souvent ça, on a tellement envie d'opulence aussi pendant un pique-nique, on veut pas faire chiche, même si la définition, ça contredit la définition d'Olivier, mais en gros, anticipons, prenons bien des Tupperware, des contenants pour pouvoir tout récupérer et rapporter à la maison.
Et le pique-nique, c'est aussi l'art de recycler les restes, hein. On peut faire effectivement avec des restes de barbecue, avec des restes de salade, de nouvelles assiettes, de nouveaux plats qu'on va pouvoir customiser et emmener avec nous en pique-nique. Ne bougez pas, on vient tout de suite avec de beaux souvenirs de pique-nique justement et de belles recettes, de nouvelles recettes à partager avec vous. A tout de suite.
Europe 1, 11h30, Laurent Mariotte.
Ambiance champêtre hein, ce samedi matin pour prendre le temps et renouer avec l'art du pique-nique. Bah voilà. Attention aux petites bestioles, c'est vrai que c'est bien d'avoir la nappe.
Comment on fait pour éloigner les mouches, les moucherons, les guêpes?
Il a fait des gros yeux, Olivier, je crois qu'il n'aime pas les insectes.
C'est ça. Oui, Olivier,
c'est bon signe d'en avoir des insectes.
Il aime bien le pique-nique chez lui, dans une table, dans son hôtel particulier avec du personnel.
Et
c'est
cheminée.
Ça l'art du pique-nique pour Olivier Pouls. Alors pour notre émission spéciale pique-nique justement, nous avons invité le chef Christophe Saint-Agne et son épouse, la restauratrice Laura Portelli. L'occasion pour nous de convoquer de beaux souvenirs et des idées de recettes pour changer de l'ordinaire.
Moi, je dirais que c'est sur une plage de la Manche, ma région d'origine, avec mes frères, avec mes parents, avec du cidre, avec un camembert, avec un poulet rôti, avec ma grand-mère qui avait préparé tout ça.
C'est le moment aussi, hein, c'est la famille, c'est les amis. On est très attaché au moment. Yves Candebordes, vous avez un souvenir de pique-nique dans le sud-ouest? Je suis sûr que vous en avez plein.
Oui, j'en ai plein parce que moi, le pique-nique, c'est le Tour de France, Laurent. C'est le Tour de France,
c'est
le mois de juillet qu'on montait sur le Tourmalet la veille. Voilà, pour s'installer, pour voir les coureurs, pour voir ces magnifiques hommes passer en vélo, on arrivait et on était entouré de Belges, de Hollandais. Chacun avait sa spécialité et on est allé, nous, bien sûr, nos cochonailles béarnaises, là, le pâté croûte, le jambon de noir de Béarnais, le chorizo. Et on avait les Hollandais qui nous proposaient leur spécialité, les Belges qui nous proposaient leur bière. Et c'est vrai, c'était le partage, cette communion qu'il y avait.
On s'en souvient. Hein.
On s'en souvient.
Olivier Pouls, un souvenir de pique-nique.
Et alors moi, il y a un truc, le pique-nique, c'est les œufs durs.
Ah bah oui.
L'œuf dur qu'on
avec
cassait.
Le sel, hein.
Avec le sel, et ça c'était l'ouverture du pique-nique.
Ça c'est vrai, vous avez raison, ça me revient aussi, tiens. Alors c'est vrai qu'un bon produit, déjà, c'est la promesse d'un pique-nique réussi. Et nous avons Jean-Philippe qui est avec nous. Vous venez d'où, Jean-Philippe?
Bonjour, je viens d'Antony, de la région parisienne, mais je vous ai amené des spécialités de ma ville de naissance.
Vous êtes né où? Ah, capitale des Gaules et de la gastronomie.
Exactement.
Qu'est-ce que vous avez apporté?
Et j'ai amené un saucisson sec de Lyon. Et puis de la cervelle de canut.
Ah, alors expliquez ce que c'est que la cervelle de canut, parce que les gens qui n'aiment pas les abats vont avoir peur, mais ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir avec de la cervelle. La cervelle de canut, c'est du fromage morfait sel combat. On rajoute du sel, du poivre, de l'huile, du vinaigre et des herbes.
Des échalotes un petit peu
un
aussi.
Un petit peu d'échalotes, de la ciboulette, plein d'herbes, tout ce qu'on a sous la main comme herbe.
On l'appelle ainsi parce que les ouvriers tisserands des quartiers de la Croix-Rousse
ça remplaçait le... Il n'y avait pas les moyens de s'acheter de la cervelle d'agneau, donc ils utilisaient la cervelle de canu.
Et ben en tout cas, ils sont très intelligents d'avoir inventé cette recette parce qu'elle est délicieuse et elle fait encore les beaux jours aujourd'hui de la cuisine lyonnaise et française, parce qu'une cervelle de canu avec des petites pommes de terre primeur, ça pour un pique-nique, c'est super.
Ouais, ça fait partie des traditions maintenant, je dirais, c'est même plus que lyonnais, c'est complètement français. On se l'est approprié dans toutes les régions de France. Et c'est vrai que c'est un plat référence, c'est un plat qui a du goût.
Ça rappelle aussi les racines un peu ouvrières du pique-nique. C'est-à-dire que c'est un repas qui était partagé par tout le monde. surtout au moment où les congés payés ont commencé à exister. Donc ça a été démocratisé à ce moment-là.
Alors le sandwich fait aussi partie des incontournables du pique-nique. Et vous, Laura, vous avez décidé de moderniser, de customiser un sandwich qui est un petit côté italien, vos racines. Hein.
Bah oui, malheureusement, je suis d'origine italienne.
Ah bah non, pourquoi vous ne plaisez pas.
On adore l'Italie. Pourquoi malheureusement?
Alors moi aussi, j'ai ma Madeleine de Proust du pique-nique, c'est-à-dire celui que ma mère préparait parce que sa grand-mère le préparait et ainsi de suite. Et c'était un sandwich qui était à base donc d'un pain plutôt blanc, qui était avec de l'aubergine, du bœuf et beaucoup de citron, beaucoup d'acidité. Et en fait, à chaque fois, ce qui est formidable en Italie, c'est que tous les ingrédients, on a beaucoup de chance, on a du soleil là-bas, donc on a des légumes qui ont le goût du soleil. Et ensuite, les gens ont l'habitude, la culture de prendre les ingrédients qui sont en bas de chez eux. Donc il y a un côté très écolo, en fait.
Comment vous l'appelez, ce sandwich ?
Della nonna. Si on devait lui trouver un nom.
C'est ça. Mais on appelle ça les tramezzini en Italie, c'est
exactement,
ça.
Exactement.
C'est les sandwichs triangles, quoi.
Alors, ça sera le tramezzini della nonna.
Oui, parce que le sandwich triangle, il a aujourd'hui une autre connotation.
On l'oublie le sous-vide.
Totalement pour le.
Non, non, avec un joli pain et tout ça, on va le faire goûter à nos auditeurs, justement.
Une belle aubergine grillée, du citron cédra qui nous vient d'Italie, en l'occurrence. Et puis un bœuf mariné, presque cru. Coupé en fines tranches.
Voilà de génial. Belles idées. Si vous n'êtes pas encore parti en vacances, que vous allez partir dans les heures qui viennent, amis auditeurs, hein, c'est samedi, il y a beaucoup de monde sur les routes, faites des sandwichs maison en piochant dans ces idées pour éviter les fameux sandwichs triangles des stations d'autoroute qu'on se retrouve acheter parfois contraint et forcé.
Et puis là, l'air de pique-nique en plus avec les camions et les voitures, etc. C'est pas terrible.
Une idée de sandwich, tiens, pour nos auditeurs, Anne-Laure Femme.
Moi, je trouve que les sandwichs manquent souvent de légumes et de fraîcheur. Alors, je m'inspirais volontiers du banh mi vietnamien, c'est-à-dire vous rajoutez les légumes de l'été, un peu émincés, vinaigrés, je pense à de la courgette et bien sûr au poivron, mais aussi aux carottes, par exemple le reste de l'année, et vous rajoutez beaucoup de coriandre, très important, avec les tiges, parce que ça croque et que c'est bon, il faut tout recycler, et la sauce soja surtout. Et puis vous rajoutez évidemment votre pièce de viande préférée, par exemple les restes de l'entrecôte qu'Olivier a fait au barbecue.
J'adore ça. Un sandwich, un signe Olivier.
Je vous en donne même deux. Ces deux sandwichs qui sont les sandwichs de mon enfance qu'on mangeait en pique-nique. Ma maman, elle faisait une omelette et elle, dans des tranches de mie de pain, elle mettait cette omelette et on la mangeait froide en fait.
Oui,
un sandwich à l'omelette, tout simplement, une omelette bien relevée. Et puis après, en dessert, j'avais droit à une tartine avec du beurre salé et des carrés de chocolat.
Ben voilà.
Et c'est simplissime, mais quand le pain est bon, le chocolat est bon et le beurre est bon, mais qu'est-ce que c'est bon.
Mais qu'est-ce que c'est bon. Alors moi j'aime bien le wrap, vous savez, cette galette façon tortilla de maïs, des belles feuilles d'épinards que vous allez mélanger avec de la mimolette et vous assaisonnez avec de l'huile d'olive et du jus de citron et vous emmenez ça avec vous en voiture ou sur la plage pour vous faire une belle opération sandwich. C'est la saison des pique-niques, mais aussi des conserves maison qu'on peut emporter en pique-nique par la suite. Alors on ouvre le bocal dans un instant. A tout de suite sur Europe. Bonne route, bon samedi et bon été.
Europe 1, Laurent Mariotte. Europe 1, 11h30, Laurent Mariotte.
C'est l'été les amis, prenons le temps de faire son potager, d'aller au marché et de cuisiner. Et puis pour ne pas se laisser surprendre par les saisons qui défilent, profitons vraiment de l'abondance de l'été pour faire des conserves, une invention géniale qu'on doit à monsieur Nicolas Appert quand même. Hein. Nicolas Appert qui était né à Chalon-sur-Marne, c'est lui qui a été le premier à mettre au point une méthode de conservation des aliments en les soumettant à la chaleur dans des contenants hermétiques et stériles. Et tiens Olivier Poul, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez dans quel contenant Nicolas Appert a réalisé ses premières conserves?
Non, était-il ferrailleur et avait-il recyclé des morceaux de ferraille? Non.
Je vais vous mettre sur la voie, il est né à Chalon-sur-Marne, en Champagne.
Il a recyclé des plaques d'égout?
Non, quel rapport? Mais non, les plaques d'égout, c'est Thionville, c'est la Lorraine.
Ou Vitry-le-François.
Oui, aussi, oui.
Des bouteilles de champagne.
Bien, gagné, exactement. Ah. Les premières conserves étaient faites dans des bouteilles de champagne.
Mais la question, c'est comment il faisait pour rentrer les choses de grande quantité ou de grande taille par le goulot.
Haché, menu. Voilà. Et c'était souvent aussi des choses assez liquides. Et
l'intérêt de la bouteille de champagne, c'est qu'elle est épaisse et qu'elle résiste à une pression forte. Parce que justement, le champagne a une pression importante et donc ce sont des bouteilles très solides.
Et ben voilà, c'est pour ça, à mon avis, qu'il est allé sur cette belle bouteille de champagne. Notre Nicolas Appert à nous, c'est Sonia Esgulian, longtemps chef cuisinière à Lyon. Elle écrit aujourd'hui des livres de cuisine, hein, vous savez. C'est
une pro du pique-nique, hein,
c'est
Sonia.
C'est une pro du pique-nique, c'est la reine des recettes anti-gaspi. Elle crée même des recettes en bocaux pour la marque Monsieur Appert. Et elle est venue nous expliquer les étapes des conserves maison sans risque.
En la matière, on n'improvise pas. Même si je prône souvent l'improvisation, c'est important de ne pas improviser. Si les temps de cuisson paraissent longs, il faut vraiment les respecter, notamment avec certains produits. Par exemple, les plus dangereux, c'est la betterave, le haricot vert, l'asperge. On n'imagine pas le nombre de gens qui ont vraiment des gros problèmes de santé, voire de botulisme, à cause d'asperges. Alors évidemment, les asperges blanches qu'on met en conserve, elles sont toutes flagada,
etc. Toutes ramollo, oui.
Est-ce qu'il faut vraiment les mettre en conserve? Ça, c'est un autre débat. On peut en faire des soupes, des petits veloutés. Mais attention, si on vous dit 1h30 de cuisson, c'est extrêmement important de respecter ces étapes.
Et juste avant, il faut stériliser le contenant, le bocal vide, avec
Alors,
le caoutchouc aussi.
Il y a deux ou trois étapes importantes. On prend le bocal et le caoutchouc, on les ébouillante au moins 10 minutes. On les sèche sur un linge propre. Ensuite, on met les aliments. On met
ça
les
peut être une recette préparée. Moi, ma mère mettait de la ratatouille avec du riz, par exemple, parce qu'avec le jus rendu par les tomates et les légumes, eh bien, le riz va absorber et il cuit en même temps que la stérilisation, en plus. Hein.
On ferme le bocal, on fait attention à bien nettoyer le pourtour du bocal, parce que là, il faut vraiment qu'on puisse sceller de façon efficace ce bocal. Et ensuite, on met ça dans une grande casserole. Alors, si on a un stérilisateur, c'est parfait.
À Paris, c'est compliqué, ça prend la place d'une pièce.
Non mais une cocotte minute, ça marche bien.
Une cocotte minute, oui. C'est parfait. Moi, j'ai même pas de cocotte minute à la maison. Un grand fait-tout. On met beaucoup d'eau. Quand on met beaucoup de bocaux, on va mettre un torchon qui va serpenter autour des bocaux pour éviter. On va éviter les petits chocs. Et surtout, on couvre largement d'eau, au moins 3 ou 4 cm d'eau, et on compte le temps de cuisson, enfin le temps de stérilisation. On se réfère, hein, il y a beaucoup de livres pointus sur la question, il y a des sites officiels même.
Les haricots verts, c'est la saison des haricots verts. Combien de temps vous les stérilisez, vous, les haricots verts, par exemple?
Une heure. Ça paraît énorme, effectivement, ils sont un peu trop cuits.
Et blanchis juste avant?
Oui, blanchis avant.
On les blanchit toujours.
Complètement.
Il faut toujours blanchir.
On ne met pas. Alors pourquoi aussi on les blanchit? Parce que déjà, ça permet un premier petit traitement thermique, et surtout. Sinon, ça prendrait trop de place dans le bocal et quand ça cuit, ça réduit, c'est pas très économique.
Bien vu Sonia Esgulian, pensez aussi aux aubergines grillées au barbecue que vous allez pouvoir mettre ensuite en conserve pour profiter comme ça du goût de l'été. Ça vous fait peur hein, les conserves Olivier Pouls?
Ça prend
il a
un
des souvenirs
de
pénibles.
Dingue.
Non, mais non,
non mais il faut stériliser, il faut sortir des énormes casseroles.
C'est de l'organisation.
Il faut cuire
que
pendant
ça.
Des heures.
Il faut pas le faire
une
tout seul, heure. Je
sais ce que je fais, moi je mets au congélateur.
Oui, c'est une autre façon de faire des conserves, effectivement. Non mais moi j'aime beaucoup les conserves. Quand on a beaucoup de tomates là, comme cet été où il y a pas mal de tomates, on fait ses coulis, on fait ses sauces. Vous serez bien content de la retrouver votre sauce tomate pour faire un osso buco.
Ben, allez, apportez-moi quelques-unes de vos conserves en fin d'année.
Avec plaisir.
Mais c'est vrai que vous faites une belle purée de tomates. Vous pouvez la congeler aussi, ça marche.
Et nous recevrons Sonia Esgulian à la rentrée parce qu'elle sort un livre sur la pasta aux éditions de l'Épure. Et quand il y a de la pasta, ben, on est toujours partant nous.
Europe 1. 11h, 12h30, Laurent Mariotte.
Vous le savez, chaque samedi, Jean-Luc Petit-Renaud a son rond de serviette à cette table. Hein, avec son amour de la fourchette et ses talents de compteur, il nous fait profiter des plaisirs de la vie. Voici le plaisir qu'il a retenu ce samedi, un plaisir de saison. C'est le plateau de fruits de mer. Bonjour, l'ami Jean-Luc.
Et salut mes bons vivants. Oh, je vous sens déjà prêt à en découdre. Et justement, je voulais vous parler de ce fameux plateau de fruits de mer. Alors là, on s'est installé au Petit Clair, rue Clair, en plein 7e arrondissement, parce que j'adore cette rue piétonne avec ce poissonnier. Alors le principe est simple, vous allez commander votre plateau de fruits de mer et puis vous vous installez en terrasse, vous buvez votre petit coup de blanc. Et lorsque ce plateau est terminé avec presque l'essentiel de tous les crustacés, les coquillages, on va planter les langoustines par-dessus, complètement en haut. Et là, subitement, ça prend un côté festif. Le plateau est ébouriffé, il y a des paillettes partout. Il y a toujours ces petits bulots qui se cachent un peu au fond d'une coquille. Il faut la pique pour le déloger. Et puis lorsque vous l'avez saisi et que vous tirez dessus, subitement, comme ça se termine par un petit ressort, en général, vous êtes aspergé de la tête aux pieds par l'eau de mer. L'araignée retient tout dans ses petites patounes. Il en va de même pour le tourteau. Il faut gratter l'intérieur. Ce qui se mange, ce qui se mange pas, les petits bouquets avec lesquels on s'essuie presque les doigts parce qu'on grignote avec les pattes sans les pattes, avec la carapace sans la carapace. Et après avoir usé toutes ses forces avec ses petits crustacés, on arrive au homard et là, eh ben on n'a plus faim.
Et c'est la pleine saison du homard.
J'ai encore faim.
Il a encore faim pour le homard.
Jean-Luc, laissez-le moi.
Durable, laissez-lui le homard. Il s'en occupe. Non, mais c'est vrai que c'est une belle saison pour les fruits. fruits de mer pour les crustacés, donc pensez-y. Tiens, amis bon vivant, Anne-Laure Femme, Olivier Pouls, une adresse où on mange de bons fruits de mer en région. On vous écoute, tiens Anne-Laure.
Moi j'ai un souvenir ému de l'étang de Thau pour les huîtres, parce que elles ont une saveur vraiment de noisette
dans les Bouches-du-Rhône
et pas trop salée, voilà. Parce que c'est une lagune où se mélangent les eaux des rivières et l'eau de mer, et ça donne vraiment des huîtres d'un raffinement génial. Et vous avez la cabane, qui est à Marseillan, que j'adore.
Olivier, moi, j'allais vous emmener au bassin d'Arcachon, dans un petit patelin qui s'appelle l'Herbe, avec ces jolies petites baraques de pêcheurs et d'ostréiculteurs. Et là aussi, vous pouvez aller manger directement sorti de l'eau ces huîtres accompagnées là-bas d'un petit morceau de saucisse,
oui,
puisqu'on fait huître
à la bordelaise,
à la bordelaise, avec un petit peu de terrine, et puis le petit coup de blanc d'entre deux mers qui va avec, évidemment.
Évidemment.
Beau trio.
Et ben moi, je vous emmène dans le nord, à la base nord, au Touquet, c'est dans la baie de Canche, c'est une belle adresse où on mange un plateau de fruits mer qui est superbe. J'ai mangé des bulots et des crevettes grises il y a quelques semaines, bien cuits et bien assaisonnés. Vous savez, pas caoutchouteux, pas flotteux, et surtout bien relevé, c'est très important ça.
S'il vous plaît, boycottons les crevettes roses qui viennent de Madagascar et de pays lointains.
Là, c'était des crevettes grises.
Les crevettes grises.
Elles étaient magnifiques.
Locales.
Le plaisir de la table dépend aussi des invités, vous êtes d'accord ?
Bah évidemment, et puis là on est en bonne compagnie.
Alors vous n'allez pas être déçus parce qu'on revient avec Pierre Arditi et Roselyne Bachelot, deux éminents membres des Bons Vivants. A tout de suite sur Europe 1, bon samedi.
11h30, Europe 1, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors pendant que vous êtes en vacances ou au travail, hein, pour certains,
oui,
tout le monde n'est
pas
en vacances.
Bah regardez-nous.
Mais comment, on est sur le pont. La table des bons vivants sort l'huile d'olive et la crème de ses invités pour profiter de l'été. Alors il y a des invités qu'on reçoit qui aiment bien pousser quelques coups de gueule de temps en temps. Hein. Et quand Pierre Arditi partage son goût de la semaine, il ne fait pas dans la demi-mesure, écoutez.
C'est une sauce, pour ne rien vous cacher, une sauce bolognaise, en bocal, dont je ne citerai pas la marque, qui était vraiment une insulte, une offense à la cuisine italienne. Et je me suis dit que même moi, qui ne suis quand même pas une pointure, j'aurais évidemment fait nettement mieux en la faisant moi-même, ce qui n'est pas finalement si compliqué
c'est
que ça.
C'est pas compliqué, c'est
voilà,
un ragoût.
On se dit toujours, on parle de la malbouffe, ça va vite comme ça. D'abord, ça coûte cher.
Bien sûr, ça coûte plus cher.
Ça coûte cher, ça coûte cher à la santé. Et quand on avale ça, tu sais, il y a toute la chimie, développe tous ces arômes absolument épouvantables. Alors que la bolognaise est une sauce absolument merveilleuse. Quand les pâtes sont bien cuites, une belle bolognaise là-dedans, c'est absolument merveilleux.
C'est un beau
ragoût. Voilà, donc c'est un mauvais goût, mais je n'y reviendrai pas.
N'y revenez pas, Pierre Arditi, mais revenez à la table des bons vivants quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous, il reviendra nous revoir à la rentrée. Il sera d'ailleurs au Théâtre des Nouveautés, aux côtés de Michel Leeb, dans la pièce Compromis qui reprend le 25 septembre. Vous voyez, il parle de la bolognaise, Pierre Arditi, une belle bolognaise que vous faites en conserve, Olivier Pouls, pour en avoir une avec de belles tomates de l'été. C'est quand même autre chose que cette sauce insipide.
Ah non, mais j'ai jamais dit qu'il fallait acheter de la bolognaise toute prête dans les rayons de supermarché.
Loin juste de que moi, ça fatigue, Olivier. Olivier a envie d'être en vraies vacances de temps en temps.
C'est vrai, mais c'est vrai que ça fait du bien aussi. Hein. Alors, une autre personnalité très bonne vivante et qui n'a pas non plus la langue dans sa poche, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est Roselyne Bachelot, elle était parmi nous.
Ah oui, je suis bonne cuisinière, j'adore faire le marché, les bons produits, j'adore cuisiner pour les copains et même pour moi, j'imagine pas, même si je suis toute seule chez moi, de pas cuisiner un petit peu, de pas me faire une jolie nappe avec un petit set de table et de m'installer dans ma salle à manger, jamais dans ma cuisine.
Mais vous avez raison, et on mange assis et on prend le temps de se
et
poser.
Et on prend le temps,
mais
voilà.
Vous avez bien raison.
Et on éteint la télé.
On mange pas devant la télé, ça va pas.
On digère mal devant la télé, ça se fait pas. Vous êtes thé ou café, Roselyne Bachelot ?
Les deux.
C'est
le matin, je n'imagine pas commencer la journée sans mon Earl Grey, et puis ensuite, toute la journée, je carbure au café, un bon arabica, à 100% arabica.
Alors, bienvenue au club. Alors justement, on va se prendre un petit café avec vous, Anne-Laure Femme. Un espresso ?
Un espresso, oui, 100% arabica pour vous, heureusement. Ouf, c'est la petite goutte qui perlait au front.
Le Robusta, on était mal barré. Hein.
L'espresso, c'est quoi les amis ? C'est du café moulu,
oui.
Et ça a été exprimé grâce à une petite quantité d'eau bouillante qui est passée sous pression à travers des grains de café.
Et on a la petite mousse comme ça, hein, cette petite écume.
La petite crème, la crème, comme disent les Italiens.
Exactement.
Qui concentre les arômes. Et moi, je suis une inconditionnelle de l'espresso et avec la crème. Alors, j'ai trouvé une machine que j'ai en main.
Et ça fait du café, ça ?
Ça fait du café sans électricité.
Ah bon ?
Alors, j'ai un peu triché, j'avoue, j'ai préparé à l'avance, sinon ça prend 2 minutes grand maximum. Vous mettez le café au-dessus, là,
ouais.
Et puis vous avez un réservoir d'eau à la base. Là, je dégaine, attention sous vos yeux ébahis, le piston.
Ah, c'est écolo, ça, hein ?
Voilà, et hop, je vais faire quelques pressions.
Ah bah voilà pour...
Ça s'appelle la nanopresso et ce sont des Hongkongais qui ont inventé ça. Alors il faut prendre le temps et là j'ai très peur évidemment.
Mais il va être froid parce que comment ça chauffe cette histoire ?
Une démonstration, ça rate toujours. Oui, mais
vous dites sans électricité, non, il faut bien faire bouillir l'eau.
Mais l'eau,
il faut de l'eau bouillante.
Alors oui.
Et là l'idée c'est que ça sorte un café. Hein, c'est
voilà,
ça.
C'est-à-dire au bout d'une heure, on va arriver. Hein.
Ah mais oui, c'est concluant votre histoire.
Je vous assure que ça a marché la dernière fois.
Et combien ça coûte qu'on rigole ?
Alors, ça coûte 70 euros.
Ah oui, quand même, on rigole bien. Oui, c'est ça.
Ça coûte 70 euros.
Il faut faire un certain nombre de cafés quand même.
Ça s'appelle Nanopresso, c'est de Wakako et c'est disponible chez Nature et Découverte en ligne ou en boutique.
Alors, faites le marché quand même, qu'on y arrive.
Non, mais arrêtez, vous me foutez. Non, vous me fichez la pression.
C'est un joli cadeau pour un week-end chez des copains, on ne sait jamais quoi amener.
Je vous assure,
non, mais ça peut être pratique en rando, par exemple.
Oui, mais encore faut-il faire bouillir l'eau.
Oui, mais enfin.
On peut le goûter, ce café, ou pas alors ?
Oui, oui, allez-y.
Non, mais ça marche pas du tout.
Mais je vais essayer, vous inquiétez pas.
Moi, j'avais comme ça des trois préfets qui étaient venus me présenter un modèle de.
Heureusement que Rosine est là pour
d'inondation des crues de la Seine. Et alors, ils avaient répété, mais alors 25 fois, j'étais ministre de l'écologie, 25 fois, ils avaient préparé ça. Et évidemment, ça a foiré quand ils sont venus me le présenter dans mon bureau. Ah, ils s'essuyaient la tête, il y avait des gouttes de sueur qui perlaient.
Comme Anne leur femme aujourd'hui.
Alors, il est où l'appareil là ?
Bah, je l'ai rendu à Bonaldi.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire, le syndrome Bonaldi, c'est contagieux. Quand même.
Mais non, elle a remarché après. Je l'ai utilisé sans blague. Sans
la vérité, c'est qu'on l'a bu ce café et qu'il était pas mal du tout, hein, quand
et
même.
Oui. Et Roselyne l'a apprécié.
Absolument. Roselyne, que vous retrouverez à la rentrée sur LCI du lundi au vendredi à 15h30 dans Face à Bachelot. Et puis son livre, un très beau livre sur sa grand-mère qui s'appelle Corentine, qui est paru chez Plon avec la recette de la boulimie d'avoine que vous retrouverez dans ce joli livre. Un très beau livre. Allez, l'été et les vacances sont une belle occasion de cuisiner pour ce qu'on aime. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr.
Alors exécution dans un instant avec une salade de pâtes signée Mathieu Vianney, le grand chef lyonnais. A tout de suite.
Europe 1, Laurent Mariotte.
Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Pas de doute, nous sommes en août. Bel été à tous depuis la table des bons vivants, les amis. Produits de saison, débat sur notre alimentation et recettes rassembleuses. On continue de se faire plaisir et du bien. Alors chaque samedi de l'été, vous le savez, nous demandons à un chef de nous donner sa recette d'été facile et familiale. Aujourd'hui, c'est Mathieu Vianney qui est le chef du restaurant La Mer Brasier à Lyon, un chef que vous connaissez bien, Olivier Pouls. Hein.
Oui, et puis ce restaurant est une institution absolue à Lyon. La Mer Brasier, première femme chef à avoir obtenu les doubles distinctions, 2 fois 3 étoiles à l'époque pour les 2 restaurants qu'elle dirigeait en alternance, hein, et qui a formé tant de chefs qui sont passés par ses cuisines. Et puis Mathieu a repris cette institution il y a une dizaine d'années à peu près, et il la porte avec tout son panache et tout son talent. Meilleur ouvrier de France, 2 étoiles au guide Michelin, c'est une adresse sérieuse.
Ce qu'on aime chez lui, c'est que c'est un amoureux vraiment des produits et des vins de sa région. Il n'a pas attendu qu'on se mette effectivement à la tendance du locavorisme pour être intéressé par les produits de sa région. Lui, c'est dans son ADN en fait. Hein.
Oui, les produits, les vins, vous avez raison, parce qu'il a une affection toute particulière, notamment pour les vins du Beaujolais. Et puis, il a cette cuisine qui est entre l'héritage de la Mer Brasier, c'est-à-dire cette cuisine très traditionnellement lyonnaise, portée par la créativité d'aujourd'hui, avec son talent et cette manière de jouer une vieille partition avec modernité.
C'est ça, il revisite, mais sans nous faire perdre nos repères. Alors sa recette familiale de l'été, c'est la salade de pâtes. La salade de pâtes vue par un chef 2 étoiles en version familiale, c'est ça qu'on demande à chaque fois à nos chefs hein, cet été. Une recette que vous refaites à la maison pour votre famille. La salade de pâtes de Mathieu Vianney, au micro de Marion Sauveur.
Moi, c'est un plat très simple. C'est ma salade de pâtes que mes enfants me demandent tous les étés. Je fais ça en fait avec des penne rigatté, de belles factures, important. Et je les cuis de façon vraiment al dente. Je les égoutte, mais je les refroidis pas et je remets juste un peu d'huile d'olive pour pas qu'elles collent entre elles. et je mets ça dans mon saladier, ce qui fait qu'en fait la cuisson va se terminer toute seule. Une salade de pâtes ne se fait surtout pas avec des vieilles pâtes qu'on a cuites la veille. Ensuite dedans je vais rajouter des oignons nouveaux, des petites cébettes émincées, du concombre, des tomates cerises, des belles tomates bien mûres. Bien sûr je vais remettre encore un peu d'huile d'olive, un peu de jus de citron, du zeste de citron et tout un mélange d'herbes, persil, cerfeuil, un peu d'estragon. Et il faut vraiment qu'il y ait une belle garniture, que ce soit gourmand.
Et coloré, hein.
Et coloré. Et après, dedans, je peux mettre des petits pignons de pain torréfiés. Si j'ai envie, si j'ai une belle burrata ou tout comme ça, on va mettre un peu de burrata. Mais ça peut être aussi un beau fromage de chèvre frais qu'on met en petits dés comme ça. Alors, autant prendre des petits fromages de chèvre du pays où vous êtes. Donc voilà, donc c'est faire vraiment une belle salade comme ça. Moi j'adore, voilà. Voilà.
Oui, c'est ce qu'on disait la semaine dernière avec Yves Condebordes, il faut que ce soit généreux et bien humide, il ne faut pas qu'elle soit sèche la salade de pâtes, et en mettant de la tomate, du concombre et de l'huile d'olive comme il le fait, on a quelque chose de très généreux et très humide.
Une petite remarque sur les références de pâtes que vous pouvez prendre, n'hésitez pas à prendre celles qui sont à base de blé dur, et si possible originaire, j'ai mon petit côté snob, de Gragnano, qui est une appellation officielle en Italie, c'est des pâtes nickel, c'est-à-dire que même si vous êtes un petit peu excessif dans le temps de cuisson, elles vont être fondantes, mais elles ne seront pas, vous savez, à s'écraser toutes seules.
Qu'est-ce qu'on boit avec la salade de pâtes de Mathieu Vianney, Olivier Pouls, s'il y avait de la tomate, du concombre?
Non, mais là, de toute façon, avec Mathieu, on va faire clin d'œil, bien sûr, à sa région, et on parlait du Beaujolais tout à l'heure. Un joli Beaujolais servi un peu frais avec cette salade de pâtes, en ce moment, c'est parfait.
Ah, c'est bien ça. Alors, pour changer des salades de pâtes et avoir d'autres supports pour faire des salades, il y a le riz, bien entendu. Il y a plein de variétés de riz, là aussi. Le riz rouge de Camargue, par exemple, qui est un riz qui se déguste al dente. C'est superbe, ça. Anne Lorfam.
Tout à fait, Laurent. Moi, je miserais plus volontiers sur des riz dont on a conservé l'enveloppe,
oui.
Le riz rouge, le riz noir aussi, et le riz complet, le riz rond complet de Camargue.
Paraffiné,
il est pas cher, il est très bon et
digeste.
Se tient très bien à la cuisson, n'hésitez pas.
Pensez aussi à l'orge perlée, au millet,
oui.
Au pois chiche, au pois blond. Mélangez des céréales et des légumineuses pour faire de grandes salades complètes comme ça. Et ensuite, vous les enrichissez effectivement avec tous les légumes du mois d'août, avec tous les légumes de l'été, quoi.
On ouvre le frigo, on regarde ce qu'il y a dedans, on prend, on coupe en morceaux et on met dedans.
Mais c'est ça, un fousitou, une belle salade fousitou. Le répondeur des bons vivants reste ouvert cet été, vous le savez, pour accueillir vos questions. Appelez le 3921, laissez-nous un message et on y répond. Eh bien, c'est justement ce que nous faisons juste après ça. Bon samedi et bon été sur Europe 1. A tout de suite. Hein.
Laurent Mariotte sur Europe 1. 11h30, Laurent Mariotte sur Europe 1.
Merci d'être fidèle à votre rendez-vous au De la Fourchette, amis auditeurs. C'est la table des bons vivants. Anne Lorfam et Olivier Pouls ont dressé le couvert avec moi. Tiens, une question avant de répondre aux questions des auditeurs. Une question à vous, Anne-Laure et Olivier. Votre recette familiale qui a fait mouche cette semaine. On est samedi, on a un peu plus le temps de cuisiner l'été. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine, tiens, Anne-Laure, qui a plu à la maison?
Alors moi, c'est les salades à base de vermicelle de riz. Qui sont hyper faciles à cuire,
ah, c'est-à-dire bon,
que vous les plongez 2 minutes dans l'eau bouillante, c'est prêt super vite. Et bah, j'ai un peu fait l'esprit fousitou de nos salades de riz et de pâtes de tout à l'heure en mettant tous les restes de la semaine. Et ça marche toujours avec une bonne sauce gnoc mam à base de poisson fermenté pour relever ça et encore mon gingembre fétiche. Non, bah, c'est le bonheur quoi.
Olivier Pouls.
Ah, alors, puisque vous nous emmenez sur vos origines traditionnelles et gustatives, moi je vous emmène sur les miennes, c'est la tomate crevette. Vous prenez des belles tomates qu'on a en ce moment qui sont bien mûres, vous les évidez, et vous prenez des crevettes grises, une mayonnaise bien relevée, vous mélangez, vous remplissez vos tomates avec ce mélange mayonnaise-crevette grise, quelques herbes et vous passez à table.
Et vous cuisez pas la tomate alors, hein?
Ah non, 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 on la laisse crue.
Ah bah, je vais rester moi aussi comme vous dans ma région d'origine.
Très chauvin.
La Lorraine, la rhubarbe, c'est encore la saison de la rhubarbe, une belle tatin de rhubarbe. J'ai fait ça pour mon émission de TF1 et depuis c'est vrai que j'arrête pas de la refaire.
On vous la réclame.
Tout l'été. Bah oui, parce que c'est hyper simple, une belle rhubarbe un petit peu aplatie, mise en rosace, un caramel avec un petit peu de miel. C'est simple et une belle pâte feuilletée, c'est vraiment fastoche.
Et pas de tofaille alors?
Ah, pas de tofaille. Mais non, c'est en hiver les tofailles ou en randonnée. Il fait pas toujours froid dans Lorraine, voyons.
Ah bon,
Olivier Pouls.
Vous le
savez. Il fait 15 degrés, il n'a jamais fait aussi chaud.
Oui, vous connaissez la phrase, hein. Dans les Vosges, on ferme le chauffage le 14 juillet, on le rallume le 15 août. Alors toute l'année, vous le savez, on répond aux questions que vous posez au 3921. On continue en été. Voici une question au 3921.
Bonjour, je m'appelle Cécile, j'habite à Paris et j'avais une question. On nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour, mais j'avoue que je ne comprends pas à quoi ça correspond. Quelle proportion manger pour chaque portion? Et est-ce qu'il faut compter que les légumes et les fruits frais? Voilà, merci beaucoup.
C'est une grande question, mais qui revient régulièrement, effectivement. On le sait, il faut manger des fruits et légumes. Il faut manger varié, il faut manger équilibré.
Oui, alors... mais manger 5 grains de raisin ou 5 pastèques, c'est pas pareil.
C'est pas pareil. C'est pas la même chose.
Déjà, qui nous dit ça, c'est le Programme National Nutrition Santé. Et donc, c'est les consignes officielles depuis, je pense, au moins une quinzaine d'années.
Oui, exactement.
Qu'on voit souvent s'afficher, d'ailleurs, sur les pubs. Alors, en fait, Cécile, vous gardez en tête que les fameuses portions, 5 portions, c'est l'équivalent d'une poignée. Et c'est l'équivalent d'une poignée, que ce soit pour des légumes crus ou cuits, ou également pour les fruits. Donc en gros, vous jouez un peu sur la variété. C'est ça le plus important, je dirais. 4-5 fraises, une pomme, une tomate, ça n'a rien d'insurmontable. Le plus important, c'est que vous misiez sur la diversité.
Une portion égale une poignée. Voilà, retenez bien ça, Cécile. Mais c'est vrai que mangeons variés, mangeons équilibrés. Et les saisons sont là naturellement pour nous aider et nous permettre de diversifier notre alimentation. Anne-Laure Femme.
Surtout ces derniers temps, les études sont incontestables, c'est-à-dire que les Français manquent de fibres. En gros, on n'en mange pas assez. Ça passe notamment par cette consommation-là de fruits et légumes, n'oublions pas, et aussi les céréales, bien sûr.
Alors, on peut répondre à la deuxième partie de sa question aussi, frais ou surgelés. Les légumes surgelés, évidemment, ça fonctionne.
Absolument.
Ça contient les fibres,
oui,
et les vitamines. En revanche, quand c'est trop cuisiné, là, pour le coup, ça ne marche pas.
Mais même des conserves et des bocaux maison, par exemple, on peut les compter dedans. Et puis, comme vous le dites, les légumes surgelés et les fruits surgelés aussi, même si ça casse un petit peu les fibres du fruit quand même, hein, la surgélation. Alors vous le savez, chaque samedi de l'été, nous demandons à une grande voix d'Europe 1 de poser une question à laquelle nous allons répondre. Alors après Catherine Ney, Laurent Cabrol et Wendy Bouchard, voici une voix que vous aimez retrouver tous les week-ends de bonne heure, le matin, une voix que vous connaissez.
Salut Laurent. En matière de cuisine, il y a une question qui m'intéresse beaucoup et ce depuis fort longtemps. Mon plat préféré, c'est la raie au beurre noir et au capre, à la grenobloise, avec un petit peu de citron également dessus. C'était le plat que me faisait ma maman, elle le faisait très très bien. Et ce qui était remarquablement bon là-dedans, outre le poisson, c'était le beurre blond. Le beurre blond qui est, selon moi, difficile à réussir parce que il faut qu'il soit goûteux, mais il faut pas qu'il soit cramé, parce que si c'est cramé, c'est très cancérigène, enfin, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on fait un beurre blond nickel, à la dernière minute, prêt à servir donc sur le poisson, donc qui est dans l'assiette? Il faut que ce soit chaud, il faut que ce soit impeccable. Voilà, je ne sais pas faire un beurre blond correct, tu vas me dire, bah, tu mets une noix de beurre dans une casserole, tu fais fondre et puis c'est fait. Moi je pense que c'est un peu plus sioux que ça, et donc j'espère bien que j'aurai la réponse en écoutant Europe 1 cet été.
On va essayer d'y répondre, Bernard. Vous avez bien sûr reconnu Bernard Poirette, hein, une légende de la radio. Bernard qu'on retrouve tous les week-ends, le samedi et le dimanche, à partir de la rentrée sur Europe 1. Alors, il parle de beurre blond. On peut parler de beurre blanc. Il évoquait le beurre noir qui, lui, n'est plus autorisé aujourd'hui parce qu'on le sait, c'est cancérigène.
C'est trop toxique. Alors, le beurre blond, c'est un beurre blanc qu'on a un tout petit peu plus cuit. La réalité, c'est que c'est un petit peu comme une sauce béarnaise, mais sans les œufs. Et donc, on part de cette base, c'est-à-dire une réduction d'échalotes de vin blanc et d'un petit peu de vinaigre qu'on fait réduire fortement. Il faut qu'il en reste l'équivalent d'une cuillère à soupe.
Exactement.
Et ensuite, on va mettre dedans des petits dés de beurre bien froid.
Bien froid.
On va bien mélanger et dès qu'on va voir que la coloration commence à virer légèrement, tac, on arrête tout de suite parce que après le beurre brûle et là ça devient toxique.
Il faut pas de coloration, il faut qu'il reste blond comme il le dit justement Bernard Poirette. Et ensuite, pour avoir une sauce bien lisse, bien nappante et onctueuse, on le passe, ce beurre blanc, dans un tamis pour retirer les échalotes. Les échalotes sont là pour parfumer, mais elles ne sont pas là pour apporter de la matière à votre beurre blanc.
On ne mange pas les échalotes, quel dommage.
Mais alors moi, je vais vous dire, je ne le passe pas au tamis et je le mange comme ça parce que j'aime les échalotes.
Ou alors
mais...
vous les mangez à même le tamis.
Voilà, exactement. Voilà, cher Bernard Poirette, tu sais tout sur le beurre blanc. Allez, ne bougez pas, on revient dans un instant pour se rafraîchir avec Olivier Pouls et sa sélection de vins de l'été. Et Jean Tellet et Jean-Pierre Foucault seront de la partie pour le questionnaire des bons vivants. A tout de suite. Et bon samedi midi sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, Laurent Mariotte.
Soyez les bienvenus les amis si vous venez d'arriver. De la fourche à la fourchette, on passe notre alimentation à la casserole chaque samedi de 11h à midi et demi. Alors la table des bons vivants se met à l'heure d'été et le vin aussi se met à l'heure d'été, mais sans glaçons, hein Olivier. Ça a été un des sujets de la chronique.
Ça a quand même été un débat chaud. Hein.
Oui, un débat chaud dans la chronique d'Olivier Pouls. Et Chantal Latsou était là en renfort.
Il y a une saisonnalité finalement pour boire les vins. On l'a vu avec l'hiver, il y a quelques mois, on parlait de ces vins qui nous réchauffent, qui revigorent. Mais c'est vrai qu'avec les températures qui montent et surtout avec une alimentation qui est différente, qui est plus végétale, plus crue, etc. On va choisir des vins, on va dire, plus digeste et d'un profil un peu différent.
Alors, on commence par quoi ?
Le cubi de rosé est quand même pas mal du tout l'été, je trouve.
Alors, évidemment, c'est l'incontournable, c'est le grand classique. Mais Chantal, on a déjà parlé des rosés à cette table il y a quelques jours.
Bah, c'est tellement donc, frais.
Bah, on va
mais
parler des blancs et des rouges,
bien,
alors.
Avec les glaçons, mais pour changer du rosé, justement.
Pas de glaçons, malheureusement.
Non, pas de glaçons. Il n'y a plus rien dans le rosé. Pas de glaçons.
Rosé,
très frais, par contre.
Vous étiez mon ami jusqu'à maintenant.
De temps en temps, j'en ai mis. Alors, du coup, on évite le rosé parce qu'on en a parlé il y a quelques temps et on passe au blanc.
On va passer au blanc parce que ça symbolise quand même là aussi les vacances, ce petit coup de blanc bien frais à l'heure de l'apéro, quand on prépare le barbecue tiens par exemple, c'est vrai que ce sont des vins qui sont faciles à boire, qui nous rafraîchissent et il y a des vins que j'aime bien, alors il y a évidemment le pourtour méditerranéen qui sonne quand même l'été avec les vins du Languedoc, les vins de Provence, de la Côte d'Azur, ces côtes de Provence à base de cépage Roll, qui est un cépage qui marche très bien avec toute cette cuisine de l'été, du Sauvignon, du Chenin, qui sont des vins qui aiment beaucoup la cuisine des légumes. Le Chablis aussi, c'est un beau vin d'été parce qu'il est tonique, il a une belle acidité. Et puis l'Alsace, par exemple, le Sylvaner, qui est un cépage dont on ne parle pas beaucoup et qui marche très bien en été.
Alors les rouges aussi, ça peut marcher en été, étonnamment. Moi, j'aime bien ça, moi.
Oui, mais là, il y a vraiment une gestion de la température qui est très importante parce que quand il fait 30 ou 35 degrés dehors et que la bouteille est chambrée, franchement, c'est pas agréable. Donc là, pour le coup, pas de glaçons dans le vin, mon cher Laurent.
Ah non, pas dans le rouge, ah jamais, malheureux.
Mais
dans
en
le
revanche,
rosé, de temps en temps, allez.
Non, mais en revanche, un seau avec de la glace et de l'eau pour rafraîchir le vin qu'on va servir à peut-être 10-12 degrés, mais comme votre verre est chaud et comme il fait chaud dans l'ambiance, ça va très vite remonter en température. Et puis là, bien sûr, ces rouges qui sentent la garrigue, qui sentent la Provence, qui sentent les vacances, vous en apportez un.
Bah oui, il est magnifique.
Voilà, le Kéran de mon ami Marcel Richaud, très grand vigneron.
Côte du Rhône méridionale.
Ah ouais,
voilà,
ouais,
sentez comme ça sent la garrigue, comme ça sent les herbes, comme ça appelle la cuisine d'été, ça. Et servi un petit peu frais, on l'a mis au frigo.
Il y a un petit côté confit. Hein.
Et après, il y a ce côté griotte, fraise,
fruit qui est
magnifique.
On parle de Kéran, il y a les frères de Lubac qui font aussi de jolis Kéran dans le
coin.
Oui,
absolument. Et puis pour terminer, tiens, une petite idée pour un apéritif original avec du sauterne. Parce que c'est vrai que le sauterne, ça, pour le coup, ce serait plutôt un vin d'hiver. Eh bien, essayez du sauterne. Et là, je vous l'accorde, 3 glaçons dedans.
Ah.
Je vous l'accorde. Quelques zestes d'orange que vous allez mettre dedans, là aussi, à infuser pendant quelques minutes. Et vous allez voir que vous avez quelque chose qui est digeste, très agréable et très estival.
Malheureux, pas de glaçons dans le sauterne.
Non,
jamais
pas de glaçons dans le sauterne.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir mettre des glaçons dans le vin, franchement
non.
Bon alors, vous en avez mis.
Tu mets des glaçons dans le sauterne, Paul.
Ah, moi, je veux bien mon petit cocktail au sauterne.
Non, mais ça, c'est vrai que c'est un débat. Hein. Dans les familles, on a tous droit à ce débat entre les glaçons, sur les glaçons dans le vin.
Pas un débat, Laurence. Non, mais ce n'est même pas ce qu'on
veut. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ? Parce qu'on était mal élevé avec les rosés, on l'a dit suffisamment ici. Il y a 90% des rosés qui ne sont pas terribles, on le sait, qui sont faits de façon. Eh bien oui, on est habitué à ça, et donc pour casser justement et lui apporter de la fraîcheur, on a mis des glaçons, mais la barre du lendemain, avec ou sans glaçons, elle est toujours là quand même.
Ouais, mais si vous voulez qu'il soit frais, vous le mettez au frigo, longtemps à l'avance, mais quand vous mettez un glaçon dans l'eau, le glaçon y fond, donc ça équivaut à mettre de l'eau dans votre vin.
Nous sommes d'accord, tu as raison, mon petit Paul. Allez, cette année, Jean-Pierre Foucault est venu nous voir pour sa dernière du mythique « Qui veut gagner des millions ?». Jean-Pierre est un homme du Sud et c'est aussi un fin gourmet. Son produit de l'été sent bon le soleil et la mer.
Le petit rouget en papillote, 7 minutes au four avec une goutte d'huile d'olive, il n'y a pas meilleur. Hein. Non vidé, bien entendu,
s'il
est frais.
Ah ouais. Bah voilà, c'est ce qu'on appelle la bécasse de la mer.
Exactement.
Hein. Ah, ça, c'est
exactement,
magnifique.
Exactement.
Ça, c'est le poisson préféré d'Alain Passard aussi, avec les écailles comme ça qui servent de protection et de coque.
Elles s'en vont toutes seules et il ne reste plus que les filets et l'arête centrale. C'est absolument délicieux.
Jean-Pierre Foucault, oui. Vous êtes collectionneur de voitures anciennes françaises exclusivement.
Exclusivement.
C'était pourquoi ? Pour aller pouvoir faire les petits routiers de la région, aller manger dans
les
bonnes tables.
Non, mais c'est vrai que les petits routiers, quand on faisait Marseille-Paris avec la Dechaux de mon père, on savait qu'il fallait s'arrêter là où le parking était plein de camions.
C'est ça.
C'est pas compliqué.
C'est comme la queue chez le boulanger.
Exactement. C'était le signe qu'on allait manger bien et pas cher. Et voilà. Mais maintenant, quand on prend l'autoroute, les petits routiers, il y en a beaucoup moins. Et puis la restauration d'autoroute est moins bonne que celle
Mais il y en a encore quelques-uns.
Mais il y a toujours des camions.
Oui, il y a toujours des camions. Mais il y a des petits routiers. Il y a même un guide des restaurants routiers qui est sorti. Donc je vous le conseille parce que ça permet de faire le bon choix. Ah, c'est vrai, un bon petit routier de temps en temps, quand même. Voilà.
Ça a presque disparu.
Il y en a encore quelques-uns, c'est ce qu'on disait avec ce guide, mais voilà, il y en a comme. Si, il y en a qui font du fait maison, je vous promets.
Mais il faut décider de son itinéraire, hein.
Non, je veux bien vous croire, je voudrais avoir. On ira ensemble. Vous
mais oui, j'en connais un dans l'Essonne, pas loin de Paris, voilà, vous voyez, ça nous ferait un petit périple.
Ouais, sympa.
Dans la famille des écrivains généreux, libres, drôles et gourmands, je demande Jean Tellet. Alors, bonne pioche, hein, les amis. L'écrivain est venu nous rendre visite à l'occasion de son nouveau roman Gare à loup, paru chez Julliard. Et ça reste pour nous un très bon souvenir. Jean Tellet, quel est le goût de votre enfance ?
Un alcool. Quand on était enfant, on avait le droit de tremper un morceau de sucre. Et ma grand-mère faisait un alcool qu'elle appelait le 44. Et je l'aidais à faire ça. On prend une orange, on prend une fourchette, il y a quatre dents, on plante dans l'orange. Dans chaque trou, on met un grain de café. Donc, on fait ça en soi. Donc, on a 44 grains de café dans l'orange. On met un litre d'eau de vie que mes oncles faisaient. On met 44 grains de sucre. On laisse macérer 44 jours, on filtre et on a du 44. Et j'adorais ça. Ouais.
Vous nous ferez goûter. Votre plus beau repas, dans le sens inoubliable, tiens.
Eh bien, c'est un repas où je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai mangé. C'est un truc que j'ai fait une seule fois. J'étais dans un restaurant, j'étais en train de finir mon repas et à côté arrive un monsieur, visiblement pratiquement SDF, en tout cas qui sort un paquet de pièces et tout, et qui demande à la serveuse si la formule est bien à 15,80€ par exemple, un truc comme ça. Elle lui dit oui et tout. Et donc, il commande la formule. Et moi, je finis mon repas, je paye et je suis allé pour sortir du restaurant. J'ai dit à la serveuse, je paye aussi le repas du monsieur qui était à côté de moi. Et je suis parti du restaurant et j'imagine qu'à un moment, le monsieur a appelé la serveuse, lui a demandé la note et il a dit, le monsieur qui était assis à côté de vous a payé votre repas. Et moi, ça m'a rendu heureux. Et j'espère que le monsieur, heureux
aussi.
C'est ça
qui est chouette, ça vous a fait plaisir aux deux. Quel est votre mot préféré en cuisine ?
Vaisselle. J'adore faire la vaisselle. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Alfred Hitchcock, pareil.
Ah oui ?
Il aimait bien arriver à un moment dans la cuisine où il y a tout ce qui a été utilisé pour la vaisselle et tout laver, tout nettoyer. Et que quand il sort de la cuisine, c'est comme s'il avait effacé toutes les traces d'un crime. Ah oui. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Qui sont les invités de votre dîner idéal, Jean Tellet ?
Moi, j'aurais aimé dîner avec Verlaine, qui avait inventé un plat qu'il appelait le plat canaille, qui était une salade de bœuf avec des morceaux de hareng, des oignons hachés crus dessus, très épicés, et puis des pommes de terre chaudes. Et j'avais raconté ça dans un roman que j'avais écrit qui s'appelait Au Verlaine. Et il y a un restaurant à Bordeaux qui faisait le plat canaille de Verlaine.
Ah super, voilà. Et le mot de la fin, tiens, FIM.
Il y a du rab ?
Oui, il y en a. Merci infiniment d'être venu.
Merci à vous, c'était absolument adorable de parler avec vous. Et c'était très bon et très bon ce que j'ai mangé et ce que j'ai bu.
Il y aura toujours du rab pour Jean Tellet.
On
n'a
pas
bonheur.
Eu beaucoup de réclamations cette année.
Non, c'est vrai, non. Non, mais Jean Tellet, je vous signale son roman Gare à loup, paru en mars aux éditions Julliard. C'est une gamine de 12 ans, vous savez, qui voit se réaliser les mauvais sorts qu'elle souhaite aux gens. Si vous n'avez pas tous vos livres de l'été, pensez-y, c'est un super bouquin. Voilà. Eh bien, merci à toute la bande des bons vivants. On arrive déjà à la fin de l'émission.
Oh. Déjà.
Bientôt midi et demi. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, Lucie Lescourou et Julien Amat à la rédaction, Marie Jacquet à la programmation. Merci Anne-Laure Femme, merci Olivier Pouls.
Merci à tous, merci Laurent.
Bon week-end. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. C'est l'été, prenez le temps de faire le marché, la cuisine
et le reste.
À samedi prochain et bon week-end.
À samedi prochain, avec grand plaisir, Laurent Mariotte, que vous pouvez aussi retrouver quand vous le voulez en podcast à déguster sur Europe 1.fr. Restez avec nous à suivre les infos.